Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 26 octobre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au cours de cette émission, le journal Les Sports, le journal de la semaine en France. Et on partira à Canberra pour parler avec la directrice de l'Alliance française de la capitale du pays. Mais pour l'heure, on passe au journal. Les grands titres de ce 26 octobre, Scott Morrison présente le plan du gouvernement de réduction zéro émission nette pour 2050. Le Victoria enregistre 1510 nouveaux cas de Covid-19 et 4 décès ce mardi. La Nouvelle-Galles du Sud, elle, enregistre 282 nouveaux cas et un seul décès. Le Premier ministre Scott Morrison a rendu public le plan de l'Australie pour une économie neutre en carbone. D'ici 2050, la coalition a officiellement adopté l'objectif de zéro net d'ici 2050, Scott Morrison s'engageant à le présenter au sommet sur le climat COP26 à Glasgow la semaine prochaine. Il déclare que le plan n'est pas une révolution, mais une évolution prudente.
It's not a plan at any cost. There's no blank checks here. It will not shut down our coal or gas production or exports. It will not impact households, businesses or the broader economy with new costs or taxes imposed by the initiatives that we are undertaking. It will not cost jobs, not in farming, mining or gas, because what we're doing in this plan is positive things. It is not a revolution, but a careful evolution to take advantage of changes in our markets. It has an insurance policy review mechanism to make sure that it keeps delivering for regional Australia.
Scott Morrison a également confirmé qu'une commission de la productivité réexaminerait la politique 2050 tous les 5 ans en mettant l'accent sur la situation des communautés rurales et régionales. Les projections actuelles montrent que l'Australie est en passe de réduire ses émissions de 30 à 35% d'ici 2030. Et puis, le leader des Verts, Adam Bandt, a longtemps poussé l'Australie à adopter un objectif de réduction d'émissions d'au moins 50% d'ici 2030. On l'écoute.
Scott Morrison has to go to Glasgow with increased 2030 targets. Otherwise, he is condemning Australia to a future of worse droughts, extreme bushfires and sea level rises. But instead, we have a fraudulent plan from the Liberals and Nationals that is only going to make the climate crisis worse.
Le gouvernement du Victoria présente au Parlement de nouvelles lois qui permettraient au ministre de la Santé de prendre des directives de santé publique pour la pandémie de COVID-19. Le projet de loi 2021 sur la santé publique et le bien-être, Pandemic Management Bill, a été présenté à la Chambre basse ce mardi. Selon Daniel Andrews, le chef du Victoria, le projet de loi devrait remplacer définitivement la loi de l'état d'urgence qui est en place depuis plus de 18 mois et qui expire le 15 décembre prochain.
You need to have a broader focus, and that's exactly what these new arrangements will underpin, a broader focus. They also set us up, having learnt many different things across the journey, for whatever that next pandemic might look like, whenever that might be into the future, and we look forward to them passing the Parliament.
Le chef de l'opposition de l'État, Matthew Guy, a déclaré que la loi proposée permettrait à Daniel Andrews de déclarer une pandémie pendant 3 mois à la fois. Matthew Guy a qualifié la proposition de la nouvelle loi comme une attaque contre la démocratie australienne.
This is the most extreme law of its kind anywhere in Australia, placing so much power in the hands of one person, not the cabinet, not the parliament, but in the hands of the Premier alone would be unprecedented, and then allowing the Premier to effectively rule by decree for months on end. declaring and classifying individuals, citizens in our state, denying them their freedoms at will, if empowered by this legislation, is unprecedented.
Le Victoria a enregistré 1510 nouveaux cas de COVID-19 sur 55 000 tests effectués et 4 autres décès ce mardi. Il y a maintenant 24 715 cas actifs à travers l'État. Le Victoria se rapproche de 80 % de la double dose de vaccin pour la population de 16 ans et plus, tandis que 75 % sont entièrement vaccinés. Le directeur de la santé de l'État du Victoria, Brett Sutton, a fait le point sur les taux de vaccination dans les régions rurales du Victoria.
As we open up further on Friday night, there will be more individuals who are potentially infectious going to regional Victoria. But regional Victoria has absolutely fantastic first dose coverage and screaming along for second dose coverage. There really is no LGA left behind in regional Victoria. They are all at or above 94% coverage, the great majority of them above 95% first dose coverage. That is more equitable for a region than any other jurisdiction in Australia.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 282 nouveaux cas de COVID-19 sur 71 000 tests effectués et un autre décès ce mardi. Il y a 457 personnes hospitalisées dans l'État et 109 sont en soins intensifs. Le taux de vaccination continue de progresser avec 93 % des personnes âgées de 16 ans et plus ayant reçu une dose, tandis que 85 % ont reçu deux doses. Tout en dévoilant une nouvelle flotte d'hélicoptères de police, le premier de l'État, Dominique Perrottet, a remercié les officiers pour leur travail lors du récent verrouillage de l'État.
Particularly during this period of time, and I particularly want to thank them for the work that they have done, keeping our community safe. As the Commissioner knows all too well, with the range of public health orders and changing of the rules over the last 18 months, they have been difficult to follow for us as politicians, let alone for the police to enforce, and they have done that in an incredibly measured way.
Le chef de l'opposition de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré que les parents devaient être patients, promettant qu'aucun enfant ne serait laissé pour compte. Tous les élèves de tous les niveaux en Nouvelle-Galles du Sud sont retournés dans les salles de classe hier.
Keep an eye on your kids, take it slow, speak to your teachers, speak to principals. They may have missed a beat over the last 12 weeks, that's fine. And if it's the case that there are a significant number of children that have fallen behind over the last 12 weeks of homeschooling, the New South Wales opposition will fight for more school counsellors and more school tutoring. We don't want any family or any student to fall behind because they've done the right thing and stayed home over the last 12 weeks.
Alors que l'Australie se rapproche d'un taux de vaccination nationale de 80% contre le COVID-19, des préparatifs sont en cours pour le programme de rappel d'une troisième dose de vaccin. Le comité des vaccins de la Therapeutic Goods Administration et de l'Australian Technical Advisory Group on Immunization se sont réunis hier pour discuter de la prochaine phase du programme de vaccination, c'est-à-dire les boost jabs. Bien que des rappels aient été mis à la disposition des Australiens gravement immunodéprimés, ils n'ont pas encore été approuvés pour le grand public. Cela survient alors que l'Agence européenne des médicaments a approuvé une troisième dose de rappel du vaccin Moderna contre le coronavirus pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Deux semaines avant la mise en œuvre d'une exigence de vaccination pour la plupart des voyageurs étrangers aux États-Unis, l'administration Biden a détaillé les nouvelles politiques internationales de voyage en avion pour lutter contre le COVID-19. Il y aura des exemptions pour les enfants et de nouvelles exigences fédérales en matière de recherche des cas contacts. Et à partir du 8 novembre prochain, les adultes étrangers, non-immigrants, voyageant aux États-Unis devront être entièrement vaccinés contre le COVID-19 à quelques exceptions près. Et tous les voyageurs devront être testés avant de monter à bord d'un avion. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, affirme que la nouvelle politique s'oriente vers un système basé sur la vaccination axée sur le risque individuel du voyageur.
This policy puts public health first. It is consistent and stringent, protecting U.S. citizens and residents as well as those who come to visit us. Because it puts public health first, exceptions to this policy will be extremely limited. Primarily, children under the age of 18 and certain individuals from countries where vaccines are not yet readily accessible.
Ailleurs dans le monde, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a dissous hier lundi les autorités de transition et a déclaré l'état d'urgence dans le pays. Plusieurs arrestations aussi, dont le premier ministre Abdallah Hamdok. Reportage de Charlotte Cossé pour Radio France Internationale.
Tôt ce matin, les arrestations de dirigeants civils ont débuté, poussant de nombreux Soudanais dès l'aube dans les rues de la capitale. Plusieurs syndicats ont appelé à la désobéissance civile. D'importants effectifs militaires ont été déployés dans la capitale, refoulant les cortèges de manifestants partis des différents quartiers de Khartoum qui tentaient d'atteindre le centre-ville et le QG de l'armée. Parmi les slogans des manifestants, les révolutionnaires libres continueront la lutte, notre révolution est pacifique et le restera, ou encore le retour en arrière est impossible. Malgré ce mouvement populaire, le général al-Burhan s'est tout de même exprimé à la télévision à la mi-journée. Il a annoncé la dissolution du gouvernement ainsi que du Conseil de souveraineté de transition. Les préfets et ministres sont limogés. Ils décrètent l'état d'urgence. Dans une conférence de presse vidéo, l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan s'est dit inquiet de possibles violences dans la nuit. Il a exhorté à la plus grande retenue.
Aux États-Unis, un procès très attendu s'est ouvert hier devant un tribunal fédéral à Charlottesville. C'est dans cette ville de Virginie qu'en août 2017, des affrontements entre suprémacistes blancs et contre-manifestants avaient fait un mort et au moins 19 blessés. Reportage Stéphanie Schuller pour RFI.
À la lumière de torches, des centaines de suprémacistes blancs et membres du Ku Klux Klan marchent de nuit sur le campus de l'université de Charlottesville. Nous sommes le 11 août 2017. Le lendemain, des milices d'extrême droite se positionnent dans le centre-ville. En tenue paramilitaire, armés de fusils, ils abordent des croix gammées et brandissent des drapeaux confédérés. Éclatent alors de violents heurts avec les contre-manifestants venus en grand nombre. Dans la soirée, un néo-nazi fonce avec sa voiture dans la foule. Heather Heyer, 32 ans, meurt sur le coup, 19 autres personnes sont blessées. Quelques heures après, le président Donald Trump suscite l'indignation en déclarant « Je pense qu'il y a des torts des deux côtés ». 24 organisateurs de cette marche et organisations de la droite radicale américaine se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés. Les plaignants veulent démontrer que la violence des suprémacistes blancs était préméditée à Charlottesville, mais aussi plus largement lors d'autres affrontements ces dernières années, comme l'assaut du Capitole le 6 janvier. Les autorités américaines ont qualifié dernièrement l'extrémisme intérieur comme l'une des plus grandes menaces pour la sécurité des États-Unis.
Page culture de ce journal est le prix Femina en France, décerné à l'écrivaine Clara Dupont-Monod pour le livre S'adapter. Catherine Frouchon-Toussaint, RFI.
C'est l'un des grands livres de cette rentrée littéraire, signé par une écrivaine brillante. Clara Dupont-Monod, journaliste, éditrice et auteure de plusieurs romans déjà remarqués qui s'inscrivaient dans l'histoire du Moyen-Âge. Mais ici, S'adapter est un texte très contemporain qui s'ouvre sur la naissance d'un enfant handicapé dans une famille. Une arrivée bouleversante pour les parents et en particulier pour les frères et sœurs de ce petit garçon qui ne vivra qu'une dizaine d'années. Choc, colère, chagrin, rejet, toutes les émotions traversent la fratrie qui, à sa façon, essaie de s'adapter à ce bébé dit inadapté dans notre monde. Et c'est bien aussi le portrait d'une société justement non adaptée au handicap en général que dessine en creux Clara Dupont-Monod, qui ne cache pas l'origine biographique de ce livre. Renversant, ce récit qui donne la parole à trois enfants frappés de plein fouet par la douleur est aussi incroyablement lumineux et servi par une écriture vive, précise, portée par une énergie telle que sa lecture est vraiment éblouissante.
On passe à la météo pour ce mardi. En Australie, à Perth, il fera 17 degrés, Adélaïde 31, Melbourne 20, Hobart 17, Canberra 20 degrés, Sydney 22, Brisbane 27, Cairns 32, Darwin 32 et à Alice Springs, maximale de 37 degrés. Un rappel des grands titres de ce 26 octobre. Scott Morrison présente le plan du gouvernement de réduction zéro émission nette pour 2050. Le Victoria enregistre 1510 nouveaux cas de Covid-19 et 4 décès ce mardi. Et la Nouvelle-Galles du Sud, elle, enregistre 282 nouveaux cas et un seul décès. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports et on commence une fois n'est pas coutume avec de la moto car il y a un Français champion du monde de la discipline et ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Les explications avec Éric Mamrut pour RFI.
La toute première fois de l'histoire, un pilote français est devenu champion du monde dans la catégorie reine de la moto GP, autrefois catégorie 500 cm3. Le héros s'appelle Fabio Quartararo, sacré à 22 ans aujourd'hui à l'issue du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le Niçois s'est classé 4e sur le circuit italien, mais a bénéficié de la chute de son principal rival, Francesco Bagnaia, alors en tête. Ceci pour s'assurer définitivement le titre mondial à deux courses de la fin de la saison. Une grande première qui réjouit le président de la Fédération française de moto, Sébastien Poirier.
Je suis évidemment très heureux, très fier. On a vécu un moment d'immense émotion parce que c'est la première fois que la France gagne un titre de champion du monde dans la catégorie reine. Et les Grands Prix ont été mis en place en 1949. On a eu des champions du monde français, mais jamais dans la catégorie reine. Et évidemment que ça a été un moment d'émotion, un moment historique qu'on a vécu et c'était vraiment fantastique.
Pourquoi justement il est important à ce point ce premier titre dans cette catégorie reine?
D'abord, un sport rayonne à travers ses champions. Et donc, évidemment, lorsqu'on a la chance d'avoir un pilote français qui porte les couleurs du pays, eh bien, c'est aussi toute la France qui rayonne. Et je crois qu'aujourd'hui, le MotoGP est suivi dans le monde entier. Fabio est connu aujourd'hui dans le monde entier. Et je crois que c'est important pour nous et même fondamental parce que ça permet de mettre un focus inattendu, inespéré sur un sport qui est peut-être quelquefois méconnu du grand public. Et donc, c'est l'occasion à travers un champion eh bien, de porter la voix de tout le milieu et de toute la discipline, de tous nos licenciés, de tous nos motoclubs. Et c'est évidemment fondamental pour nous en tant que fédération.
Éric Mamrut, allez, on écoute. Bien justement, la réaction du nouveau champion du monde de moto, Fabio Quartararo.
J'ai pas les mots, sincèrement. J'arrive pas à réaliser encore ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas réussi à faire une belle course comme je le voulais, mais bon. Je m'en fous, je suis champion du monde aujourd'hui, je peux tout me permettre. Je réalise pas encore ce que j'ai fait aujourd'hui et je pense que voilà, c'est incroyable. Je pense que je réaliserai dans quelques jours. Ce que je sais, c'est que je suis champion du monde et il y a ma famille ici, donc sincèrement, je peux pas être plus content.
Fabio Quartararo. Allez, on passe maintenant au football. Et il y avait de très très belles affiches ce week-end dans tous les championnats européens. On commence par la France et le classico français PSG-OM. Un match sans but.
Sans but, presque en fait. Effectivement, le 0-0 du score final est a priori le score qui sera enregistré par la Ligue, mais on a quand même assisté à deux buts ce soir ici au Stade Vélodrome. Un premier but dès le quart d'heure de jeu, hein, contre son camp de Luan Pérez, le défenseur de l'OM qui tacle pour essayer de dégager un centre-tir de Neymar, mais finalement le pousse le ballon du tibia dans son propre but. Le but justement refusé pour hors-jeu après vérification vidéo. Neymar était hors-jeu au début de l'action. Et puis 7 minutes plus tard, à la 21e minute, bah, cette fois c'est Marseille qui marque avec Arkadiusz Milik, son attaquant de pointe. Il reçoit le ballon dans la surface depuis un centre de Lirola venu de la droite. Milik qui bat Navas, mais là aussi le but est refusé pour hors-jeu par monsieur Bastien, l'arbitre de la rencontre. Marseille qui peut nourrir quelques regrets hein, à l'issue de ce classique parce que s'il finit à 0-0, c'est parce qu'il a été maladroit, cet OM de Sampaoli qui a quand même joué plus de quasiment 35 minutes à 11 contre 10 après l'expulsion de Achraf Hakimi pour une faute en tant que dernier défenseur. Bref, des regrets, mais un match magnifique, c'est toujours ça de prix.
Et d'ailleurs, une autre réaction sur ce match, le Marseillais William Saliba.
C'est sûr que c'était un très très bon match. Voilà, ils ont marqué le premier but hors-jeu. Nous, on a égalisé aussi hors-jeu. Donc voilà, c'est sûr que c'était un bon match et des occasions de part et d'autre. Après, avec ce rouge, on aurait espéré ramener les 3 points. Mais bon, on a fait match nul. Faut pas cracher dessus et faut aller de l'avant. C'est le meilleur match de ma carrière. Un classique au Vélodrome devant c'est cette ferveur. Et donc voilà, aujourd'hui, on a fait match nul. C'est pas si mal que ça. Et voilà. Dès mercredi, on va essayer de vite ramener les 3 points.
William Saliba de l'OM, l'Olympique de Marseille. Voilà donc pour ce match OM-PSG. Alors je vous le disais, il y avait de très très belles affiches. Pierre Chaperon nous explique, Real Madrid contre le Barça.
Oui, les Bleus madrilènes construits depuis leur propre surface de réparation. Le premier, c'est Alaba qui chippe la balle, remontée de ballon, ça va très vite, Vinicius, Rodrigo, et Alaba qui a suivi, tir croisé, 1-0 à la 24e. À la 93e, ça part sur une mésentente entre Piqué et Coutinho. En contre, Vasquez dévie pour Asensio, le Mallorquin, eh bien, bute sur Ter Stegen. Vasquez tacle dans les 6 mètres et marque 2-0. Agüero réduit la marque sur un centre de Dest. Enfin, match, pas un grand classico, légèrement dominé par le Barça, peu d'intensité, de folie, manque peut-être des stars. C'était le premier de l'ère post-Messi Sergio Ramos, 45 classicos chacun. Premier succès dans ce sommet pour Ancelotti.
Vraiment la même ambiance côté Barça, Pierre.
Ouais, de la frustration globalement dans la presse catalane. Malgré deux tirs cadrés, on estime ce soir que Barcelone a bien bataillé, mais ça ne fait pas avancer le club dans cette Liga. 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites et un entraîneur du Barça, Ronald Koeman, abattu.
Et direction maintenant l'Angleterre et ce match Liverpool-Manchester United avec un très 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 grand Liverpool.
Oui, humilié, et ça aurait pu encore être pire. 5-0, c'est la plus grosse défaite de Manchester United contre Liverpool sur son terrain depuis 1925, si je ne m'abuse. Et quand je dis ça aurait pu être encore pire, on avait l'impression que Liverpool a bien joué, mais sans jamais passer à la vitesse vraiment supérieure. Et en fait, a terminé d'ailleurs le match à 11 contre 10 après l'expulsion totalement justifiée de Paul Pogba pour un tacle sur Naby Keita, on en reparlera. Mais ils ont terminé le match en roue libre, en gardant le ballon tout simplement, et ils auraient pu en mettre un, deux, trois de plus. Je crois que ça n'aurait pas fait vraiment beaucoup de différence. Mais 5-0, donc pour Liverpool, une catastrophe pour cette équipe de Manchester United. C'est tout simplement hallucinant de voir une équipe imploser et exploser comme ça a été le cas de Manchester United devant son public.
Avec côté Liverpool, un Mohamed Salah éblouissant ce soir.
Je dirais éblouissant comme il est depuis le début de la saison. C'est un joueur qui est au sommet de son art. C'est aujourd'hui, de l'avis général, en tout cas au moins en Angleterre, le meilleur attaquant du monde sur sa forme actuelle. Un coup du chapeau, c'est son 4e, je crois, pour Liverpool. Il a passé un cap symbolique très important aujourd'hui, puisque il était à égalité avec Didier Drogba pour ce qui est du nombre de buts marqués par un joueur africain en première ligue. Tous deux étaient à 104, mais là, le compteur est passé à 107, donc, pour Mohamed Salah, qui est maintenant seul au sommet de ce classement.
Et pour conclure, direction l'Italie, et un match très beau lui-même, également à la Juventus de Turin contre l'Inter Milan. Matteo Cioffi.
Oui, un but partout, derby d'Italie toujours très palpitant et symbole d'une rivalité historique entre deux clubs. Inter et Juve se sont répondus aux attentes, beau spectacle, tension et bien entendu polémique comme sur le premier but de Dzeko qui a ouvert le score en repoussant dans les filets le ballon frappé sur la barre transversale par le Turc Hakan Çalhanoğlu. but qui est arrivé lorsque la Juve jouait en 10, car Federico Bernardeschi était hors du terrain pour se faire soigner l'épaule. Bernardeschi qui est ensuite sorti du match. Dzeko, c'est un but en championnat et sixième réalisation consécutive. 1-0 le score à la mi-temps, deuxième période qui suit le même rythme. Avec l'Inter qui gère le match avec un jeu plus fluide par rapport à l'adversaire. Et quand on laisse croire une victoire des Interistes, à 5 minutes de la fin, l'arbitre siffle un pénalty en faveur de la vieille dame. Paul Dybala se charge de le battre, but un partout, résultat qui à la fin ne sert à aucune de deux équipes.
Matteo Cioffi, et c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. Et comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, eh bien, les scénarios possibles pour le futur énergétique et plus précisément électrique de la France.
Oui, la question est plus que jamais d'actualité à double titre parce que déjà depuis plusieurs semaines, les prix de l'énergie explosent en France et parce que nous sommes en pleine campagne électorale à 6 mois de l'élection présidentielle, avril 2022, et que les candidats rivalisent de propositions pour répondre à cette problématique, avec des positions parfois à l'opposé, nous le verrons tout à l'heure, suivant les candidats. Le gouvernement et le président de la République, Emmanuel Macron, avaient demandé, en tout cas en 2019, un rapport global sur toutes ces questions au réseau de transport d'électricité, le RTE, qui chapeaute tout le réseau électrique français. Eh bien, ce rapport vient d'être rendu ce lundi 25 octobre, et l'idée n'est pas tant d'influencer les décideurs, les politiques, mais de mettre sur la table les différentes possibilités à horizon 2025. Nous allons voir six scénarios sont envisagés par la société RTE.
Alors, quels sont justement ces scénarios avancés dans ce rapport ?
Alors, il y en a 6 avec des nuances de l'un à l'autre, mais tous aboutissent à un mix de production pour produire l'énergie dont la France, dont les Français auront besoin dans une trentaine d'années, avec plusieurs sources d'énergie. Il faut se diversifier, bien entendu, mais l'un des 6 scénarios consisterait à ce que toute la production soit issue d'énergie dite renouvelable. Ce scénario est celui qui écarte les centrales nucléaires. À l'opposé, il y a un scénario qui envisage de garder jusqu'à 50% de l'électricité issue des centrales nucléaires. Aujourd'hui, les centrales nucléaires, la combustion de l'uranium assure encore près de 70% de la production d'électricité en France. Cela place la France au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis et devant la Chine. Cette question du nucléaire, elle est au centre de la réflexion de ce qui va se jouer ces prochaines années. La France maîtrise parfaitement la technologie. Cela nous renvoie à la volonté forte dans les années 60 d'assurer au pays une indépendance énergétique. Mais le parc nucléaire français est vieillissant. Toutes les centrales implantées sur le territoire vont être remplacées, vont devoir être remplacées si on continue de miser sur le nucléaire. La question se pose donc de savoir s'il faut ou non renouveler toutes ces centrales ou bien s'il faut se tourner définitivement vers d'autres sources d'énergie. Dans les 6 propositions mises sur la table par la société RTE, indépendamment du nucléaire, on retrouve dans des proportions diverses l'énergie solaire, les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou en mer, et une catégorie autres sources productrices d'électricité, hydraulique, bioénergie, etc. etc. Il faut savoir que ce rapport, qui fait 600 pages, il a été pensé avec les prérequis suivants. Assurer la sécurité d'approvisionnement du système électrique français, et atteindre au milieu du siècle, en 2050, la neutralité carbone. Car aujourd'hui, plus de 60% de l'énergie consommée en France est encore issue de l'énergie fossile, des combustibles qui produisent du CO2. Quand on dit énergie combustible, on parle des voitures, des carburants, des hauts fourneaux dans les usines. Et c'est là que l'électrique peut aider en généralisant les voitures électriques ou en remplaçant dans les usines le chauffage au fioul par des pompes à chaleur. Aujourd'hui, l'électrique ne représente que 25% de l'énergie globale utilisée en France. L'objectif serait d'arriver à plus de 50% en 2050. En résumé, donc, deux défis se posent et sont abordés dans ce rapport. Produire plus d'électricité pour tourner le dos au pétrole, au gaz, au combustible, mais produire plus d'électricité de façon renouvelable, tout en éduquant les Français pour qu'ils consomment moins, pour qu'il y ait moins de gaspillage d'énergie. Dans les commentaires accompagnant le rapport, hein, les multiples schémas, projections, l'avantage de garder du nucléaire est mis en avant, car sans le nucléaire, il faudrait développer dans des proportions gigantesques l'éolien, le solaire, avec toutes les incertitudes liées à ces sources d'énergie là, hein, qui dépendent en partie, par exemple, de la météo. Dans l'optique où le mix énergétique garderait encore 50% de nucléaire, à l'inverse, eh bien, il faudrait, dans les 30 années qui viennent, bien construire de très nombreuses centrales pour renouveler le parc actuel, à la fois ces méga centrales, les EPR, centrales nouvelle génération, mais aussi des mini-centrales dont le président Emmanuel Macron a vanté les mérites dernièrement. Le nucléaire n'émet pas de CO2, ou alors de façon très, très marginale. En revanche, reste la question du traitement des déchets nucléaires, des déchets radioactifs. Et c'est en cela que le nucléaire, certes, n'émet pas de CO2, mais le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable.
Et comment se positionnent les politiques par rapport à ces différentes possibilités ?
Bien, commençons par la position du président de la République, Emmanuel Macron, qui défend, quels que soient les sujets, hein, cette politique du « en même temps », c'est sa marque de fabrique. Et bien là, sur l'énergie, on est en plein dedans. Le « en même temps » du chef de l'État, c'est de défendre le savoir-faire français en matière de nucléaire. Donc oui, s'appuyer sur le nucléaire, il l'a redit au début du mois d'octobre, avec cette idée de pouvoir implanter des mini-centrales nucléaires un peu partout, mais il veut aussi miser sur les énergies renouvelables. Il l'a rappelé également, se projetant à l'horizon 2030, nous aurons un objectif d'investissement de plus de 500 millions d'euros dans les technologies de rupture, a dit le président de la République, dans les énergies renouvelables, en particulier, a-t-il souligné, les éoliennes terrestres, en mer et le photovoltaïque. Alors, chaque mot a son sens, hein. Emmanuel Macron, qui, même s'il ne s'est pas encore officiellement déclaré, eh bien, va briguer, c'est un secret de polichinelle, un second mandat en avril prochain, il ne renonce pas aux éoliennes. Mais le sujet, bien entendu, divise l'opinion, cette question des éoliennes. Alors, Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie des Verts, il soutient, lui, le développement des éoliennes. Hein. Les écologistes veulent sortir du nucléaire, jugé dangereux, tout comme Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, extrême gauche, qui veut fermer toutes les centrales. Mais à l'inverse, à droite, notamment, on s'est emparé du dossier des éoliennes pour faire remonter du terrain la colère de ceux et celles qui habitent tout près de ces parcs éoliens qui dénaturent les paysages, sans parler du bruit généré, avec des éoliennes qui peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de hauteur. Le président de la République a conscience, hein, de cette colère dans les campagnes. Il en tient compte, mais il l'a dit, pas question de renoncer à l'éolien. Xavier Bertrand, candidat à la primaire de la droite, parti républicain, lui est bien plus radical. Il propose un moratoire sur les éoliennes. À l'extrême droite, Marine Le Pen, pour le Rassemblement National, elle va même plus loin. Elle affirme même que si elle est élue, les éoliennes seront démontées. Le débat est vif. Le gouvernement, lui, veut jouer la sagesse, rappelant que toute position extrême, que ce soit fermeture des centrales nucléaires ou abandon de l'éolien, aurait pour conséquence, eh bien, de mettre la France dans une position de ne plus être en capacité d'assurer sa production d'électricité. Le risque, ce sont des coupures de courant, a rappelé Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Le gouvernement fustige ainsi les positions jugées irréalistes ou démagogiques. Moi, dans cette présidentielle, conclut Barbara Pompili, ministre donc de la Transition écologique, je veux faire barrage au simplisme mortifère.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu en France pour nous cette semaine.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois sur les ondes de SBS French Nancy Ford-Waits, qui est la directrice de l'Alliance française de Canberra. Elle est la Chief Executive Officer, pour ainsi dire. Bonjour et bienvenue sur nos ondes.
Merci beaucoup et merci pour cette opportunité de parler de notre programme des événements.
On pourrait commencer par vous-même. Parlez-nous de votre parcours professionnel pour les gens qui nous écoutent. Et d'après ce que je comprends aussi, vous êtes toujours aussi la directrice du magazine Canberra en français.
Oui, c'est ça. Donc, maintenant, je suis la directrice de l'Alliance française de Canberra et depuis août l'an dernier. Et avant de commencer dans ce rôle-là, j'étais la responsable de communication et culture ici à l'Alliance française. Mais avant tout ça, oui, je dirigeais mon propre magazine bilingue français-anglais qui s'appelait Canberra en français. Et donc, bien que je ne sois pas française, je suis évidemment passionnée par la belle langue, le français, et par la culture de tous les pays francophones. En plus, je lève mes deux enfants bilingues. Et moi, je suis la preuve que c'est possible d'apprendre le français quand on est adulte parce que j'ai commencé comme étudiante à l'Alliance française de Canberra il y a presque 11 ans. Maintenant, et à ce moment-là, je n'avais aucune idée qu'un jour je serais la directrice de cette institution de langue. Donc, on ne sait jamais où on va aller quand on commence comme étudiant à l'Alliance française de Canberra. Mais avant tout ça, j'avais plutôt une carrière dans le domaine de politique, gouvernement et le développement international. Donc, c'est un petit peu rigolo, mais ce que j'ai étudié à l'université était les études asiatiques, pas européennes, et aussi la politique. Donc, à l'époque, j'étais conseillère politique pour une sénatrice, aussi pour un chief executive officer pour une grande organisation de développement international qui s'appelle Vision Mondiale en français, World Vision. Et j'ai aussi fait un essai pour devenir sénatrice moi-même, parce que moi, j'étais une candidate pour le Sénat dans la dernière élection fédérale en 2019. Donc, voilà, j'ai un parcours un petit peu divers, mais je pense qu'à nos jours, ça devient de plus en plus normal d'avoir plusieurs travails pendant une carrière. Et donc voilà, peut-être je suis un petit peu avant-gardiste dans la manière avec laquelle j'ai géré ma carrière.
Il y a des élections qui arrivent incessamment. Est-ce que vous seriez peut-être encore une fois candidate pour le Sénat?
Non, je ne pense pas. J'aime trop diriger l'Alliance française de Canberra, mais peut-être à l'avenir, hein, parce que c'est clair qu'il y a des grands problèmes à résoudre. Et moi, je suis concernée par le fait que, à mon avis, Australie, on ne fait pas assez pour lutter contre le changement de climat. Et ça m'inquiète énormément, et surtout pour l'avenir de mes enfants. Et donc, j'aimerais à l'avenir, mais pour l'instant, je suis contente comme directrice de l'Alliance française de Canberra.
Et tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue étrangère, et dans votre cas, c'était le français. Alors, quels sont un petit peu les conseils que vous donneriez aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être commencer à apprendre le français à n'importe quel âge?
C'est n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne pensez pas que ce ne soit pas possible d'apprendre quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 24 ans, c'est toujours possible. Et donc, pour moi, les deux conseils sont là. Premièrement, prenez chaque opportunité de parler en français. Au début, moi, j'étais nerveuse. J'avais peur que si je commençais à parler en français avec un vrai français, une personne francophone, il me trouverait un petit peu bizarre ou il remarquerait vite toutes mes erreurs, mais ce n'est jamais le cas. J'ai trouvé que les personnes francophones, ils sont toujours ravis de parler en français et ils n'ont pas du tout des problèmes avec des petites erreurs qu'on fait. Et c'est absolument important de parler aussi souvent que c'est possible. Et c'est pour ça que mon premier point de conseil, c'est de saisir chaque opportunité de parler en français. Parce que le plus qu'on parle, le plus qu'on peut parler. Et deuxièmement, c'est de faire un petit peu chaque jour. Donc, par exemple, faire un download de cette émission-là et écouter un petit peu chaque jour quand on va au travail, dans la voiture, on peut écouter quelque chose. Aussi, les chansons françaises. Il y a plusieurs belles chansons françaises qui aident énormément l'apprentissage du français. Par exemple, Grand Corps Malade. C'est un type de musique qui s'appelle slam et c'est un petit peu comme les poésies avec de la musique. Et il parle assez clairement, donc pour moi aussi, j'écoute cette musique-là, et ainsi on peut écouter les sons de français aussi bien sur les films. Les films sont formidables parce qu'il y a les sous-titres, donc on peut vérifier si on a bien compris ou pas. Et en plus, bien sûr, les Alliances françaises autour d'Australie, on organise un grand festival de films français qui est effectivement le plus grand festival de films français autour du monde, autour, sauf en France, bien sûr. Donc, Canberra, ça aura lieu dans toutes les villes, en fait. Ça aura lieu en mars, avril, l'an prochain. Et c'est une belle opportunité. Et je vais souligner le fait que toute l'année, il y a toujours les beaux films français disponibles sur SBS On Demand. Donc, pour moi, ça c'est les deux conseils pour écouter, pour parler le français aussi vite que c'est possible, parce que ma thèse est là, que la raison pour laquelle les adultes trouvent plus difficile à apprendre une langue, n'importe quelle langue, c'est le manque de temps. Ce n'est pas du tout la capacité de cerveau, c'est le manque de temps. Les enfants, ils ont beaucoup plus de temps que nous. Donc, ils peuvent faire leurs leçons à l'école, tout ça. Nous, on a un manque de temps et c'est ça qui embête l'apprentissage parce que c'est comme l'exercice, il faut faire un tout petit peu chaque jour pour avancer.
Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. N'oubliez pas de télécharger nos podcasts sbs.com.au/French. Belle fin d'après-midi et à très bientôt.
Commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.